Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir. Aujourd'hui, je reçois Hélène Legrand, une architecte spécialisée dans les ponts. On va parler des points communs entre les ingénieurs et les architectes, de la formation ingénieur-architecte à l'INSA de Lyon, ou encore de la place de la créativité dans son métier. Bonne écoute! Bonjour Hélène et bienvenue dans le podcast Ingénieur Avenir, ça va ?
Ça va.
Heureux de te recevoir dans le podcast. Alors Hélène, tu as 46 ans et tu as été diplômée du département génie civil et urbanisme à l'INSA de Lyon en 1999. Mais la grande particularité de ton cursus, c'est que tu as été une des premières élèves à bénéficier du partenariat entre l'INSA Lyon et l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. C'est-à-dire que tu es à la fois ingénieur et architecte. Depuis bientôt 20 ans, tu es employée dans un cabinet d'architecture en région parisienne. Alors Hélène, est-ce que toi, tu te définis plutôt comme une ingénieure ou comme une architecte ?
Alors clairement, moi je me définis comme une architecte. Mon diplôme d'ingénieur, il me sert vraiment, c'est un bagage technique que j'ai. Mais au quotidien, je fais pas de calcul, je dimensionne pas. Voilà, c'est plus pour moi un bagage qui me permet de dialoguer justement avec les ingénieurs avec qui je travaille.
Ok. Et justement, tu as parlé de dimensionnement, de calcul. C'est quoi la différence entre un architecte et un ingénieur ?
Alors, dans les ponts, puisque moi, ma spécialité, c'est quand même ça, c'est vraiment donc, justement toute cette partie technique et calcul, vraiment dimensionnement fin, va être le rôle de l'ingénieur. Alors que nous, architectes, on va surtout intervenir, on intervient sur toute la durée du projet, mais disons que notre apport principal, il intervient vraiment en début de projet. C'est nous qui allons donner vraiment les grandes directions du dessin, en fait. On va choisir en collaboration avec l'ingénieur le type de structure sur lequel on va partir, mais on a suffisamment d'expérience dans le domaine pour pouvoir de nous-mêmes déjà éliminer certaines solutions qui seraient pas viables techniquement, etc. Et c'est après que ça va être vraiment un travail main dans la main avec les bureaux d'études pour affiner les structures, vraiment arriver à l'effet esthétique qu'on recherche, etc.
Ok. Donc, si je comprends bien, dans ton métier à toi d'architecte, c'est plutôt un aspect général de forme et d'esthétique. Et là, les ingénieurs, ce sera plutôt au niveau fonctionnalité. Enfin, j'ai l'impression que ça s'entremêle quand même pas mal. Est-ce qu'il y a une ligne en fait qui trace un petit peu la frontière entre les deux métiers, ou c'est vraiment tout le temps entremêlé dans ton cas à toi en tout cas?
Alors, ça s'entremêle beaucoup. On n'intervient pas uniquement à une échelle générale. On va aussi venir vraiment traiter des détails sur la fin du projet, c'est-à-dire que en début, en phase d'esquisse, c'est vraiment nous qui allons plutôt donner une grande intention. Est-ce qu'on fait un arc ? Est-ce qu'on fait un pont à câble ? Est-ce qu'on fait au contraire une ligne très discrète dans le paysage sans un grand geste architectural ? Enfin voilà, on va donner un peu cette impulsion-là. Et puis, au fur et à mesure que les études vont avancer, que les ingés vont revenir vers nous en disant « bon là, finalement, on n'y arrive pas très bien, ça tire un peu, etc. Est-ce que si on réélargit, si on réépaissit, ça nous donnerait un peu de gras. » Donc bon, nous on revoit notre dessin et puis on va avancer comme ça petit à petit dans la structure du pont, et puis après sur des détails comme les garde-corps, les accroches de haubans, ce qu'on appelle les culées, c'est-à-dire comment le pont s'ancre aux deux extrémités, à quoi ça va ressembler, etc. Et donc alors en termes de, est-ce qu'il y a une frontière, il y a une frontière de responsabilité clairement. C'est-à-dire que nous, on prend quand même assez peu de responsabilités sur le fait que le pont, il va tenir debout ou non. Ça, c'est vraiment les bureaux d'études qui endossent cette responsabilité-là. Et puis après, bon, sur le dessin, c'est quand même surtout nous qui menons le dessin. Voilà.
Ok. Et quand tu dis mener le dessin, une intégration dans le paysage aussi, est-ce que tu as une dimension, enfin, est-ce que tes interlocuteurs, c'est aussi les politiques locales pour, enfin, qui ont commandé, j'imagine, des ouvrages comme ça pour...
Évidemment, oui, ouais. Bien sûr. Par définition, le pont, c'est quand même un ouvrage qui rentre dans les marchés publics. On a rarement un particulier qui vient nous voir, toc, toc, j'aimerais bien faire un pont au fond de mon jardin. Donc, on est clairement dans les marchés publics. Donc, tout ça, c'est très encadré, etc. Donc, on va dire que une fois sur deux, c'est un concours, une fois sur deux, c'est un appel d'offres. Ça dépend, il y a différentes... façon d'aborder le projet. Mais dans tous les cas, le client, donc c'est souvent une collectivité, une région, une ville, l'État ponctuellement, donc qui va nous commander un projet. Donc il publie un programme en réalité, qui est déjà très défini. On va relier le point A au point B. On va franchir la rivière sans mettre de pile dans l'eau, ou au contraire, on a besoin d'une passe navigable. Sur le pont, on veut faire passer une autoroute, ou bien au contraire, un tramway, des circulations douces. Enfin, voilà, tout ça, c'est un programme qui est déjà très établi. Nous, on va essayer de s'imprégner de ça, et puis d'apporter une réponse qui nous semble la plus pertinente et qu'on va soumettre. Alors, si c'est en concours, de fait, après, on passe devant un jury. Si c'est en appel d'offres, là, ça va être plus un échange, hein, plus un dialogue entre le client et nous.
D'accord, ok. Et donc, toi, en gros, ton entrée dans un projet, ça va se faire, comme tu l'as dit, par un appel d'offres ou par un concours. Et après, donc, comme tu nous disais tout à l'heure, le processus, il se poursuit en étroite collaboration avec un bureau d'études, par exemple. Et à quel moment est-ce que le projet, c'est fini pour toi en tant qu'architecte?
Ah ben, moi, c'est à la livraison, la plupart du temps. Alors, tout dépend si on a une mission de suivi de travaux ou non. Ça peut arriver, mais c'est assez rare qu'on n'ait pas de mission de suivi de travaux. En général, on la réclame pour justement... Alors, même si on n'est pas sur le chantier toutes les semaines, forcément, parce qu'en plus, nous, le cabinet, on travaille dans le monde entier, donc ça pourrait être un petit peu compliqué. Mais même à l'échelle de la France, disons que ça serait un peu lourd de suivre les chantiers au quotidien. Mais on a souvent une mission de visa déjà sur tous les plans d'exécution. Donc, c'est-à-dire que les entreprises, une fois qu'elles ont vu notre projet, elles décident de construire de telle ou telle façon, elles nous soumettent leur plan pour qu'on vérifie bien qu'ils ont bien compris notre intention, qu'ils ont bien compris ce qu'on voulait faire. Et puis, derrière, on va sur chantier pour valider des échantillons, toutes sortes de choses, les garde-corps, enfin ce genre de choses, pour être sûr que donc c'est bien conforme à notre dessin, que c'est bien posé comme il faut, que voilà, que les exigences qu'on peut avoir en termes d'esthétique et sont bien respectées.
Ok. Donc le projet est fini quand le chantier est fini, quoi.
Et, en gros, ouais, c'est ça.
Ok. J'ai une grande question par rapport à la formation, parce que c'est quand même, donc comme je disais à la présentation, la grande particularité quand même de ton cursus, c'est que tu as été à la fois dans une école d'ingé et à la fois dans une école d'architecture. Et comme nous, on s'adresse à des élèves ingénieurs, ça ressemble à quoi, ou en tout cas, quand toi tu y étais, ça ressemblait à quoi l'école d'architecture Est-ce que ça changeait beaucoup de l'école d'ingénieur? La formation, elle consiste en quoi, tout ça?
Alors oui, c'est un grand saut dans l'inconnu, l'école d'architecture pour des élèves ingénieurs. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé personnellement que l'INSA, elle est vraiment dans la continuité du lycée. On est en petite classe, bon, il y a des cours en amphi, etc. Mais c'est des choses qui sont très encadrées, qui sont très... Enfin voilà, on est devant notre bureau, on a notre cahier, et puis on prend le cours, et puis après on fait les exos, bon, enfin voilà. L'arrivée à l'école d'archi, c'était un petit peu plus surprenant. C'est vrai qu'ils ont des apprenants. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, on nous faisait rentrer directement en deuxième année, en plus, qui était encore un petit peu plus violent, peut-être. Et en fait, on faisait l'équivalent d'une deuxième année en deux ans, donc sur la troisième et quatrième année d'INSA. Je ne sais pas pourquoi ils estimaient que les cours de première année ne devaient pas être... nécessaire. Bon, moi j'ai trouvé que typiquement il y a beaucoup de cours de dessin en première année qui m'ont un peu fait défaut au début. Je sais pas si ça a été revu depuis. Et puis après, ben l'enseignement de l'école d'archi, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'enseignement de projet, c'est-à-dire qu'on se retrouve quasiment dans la situation d'un architecte. On a un sujet, voilà, et on va construire une école maternelle. Moi, mon premier sujet, c'était un musée, je me rappelle. Et donc on a eu une présentation pour toute la promo on allait tous faire le même sujet par un prof un peu perché qui nous balançait des diapos de trucs tout déconstruits. Enfin, moi personnellement j'étais un petit peu surprise, mais en fait voilà, on vous jette un peu dans le grand bain et puis advienne que pourra. Et donc après ça se passe sous forme d'atelier, c'est-à-dire qu'on est à nouveau réduit sous forme de petits groupes 15-20 d'étudiants avec un prof donné. Et puis, toutes les semaines, on va lui présenter l'avancement de notre projet. Donc, on bidouille sur des calques, on dessine, on fait beaucoup de maquettes, des petites maquettes d'intention au début et puis qui s'affinent petit à petit. Et chaque semaine, on va présenter son projet au prof. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, moi, je considère que le musée, on y rentre par là. C'est important d'avoir toute une scénographie, tout un parcours. Je veux que la lumière, elle soit comme ça. Donc, j'ai prévu des percements comme ça, etc. Et puis, on essaye d'expliquer son projet. Le prof, il essaye d'orienter aussi en donnant des pistes, par exemple, d'autres choses qui ont été faites par d'autres architectes ou en questionnant. Et je comprends pas, là, tu trouves pas que c'est un peu bizarre d'avoir pensé des choses comme ça? Et puis, de faire évoluer comme ça tout le monde. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à avoir une démarche architecturale, en fait. C'est-à-dire que, bien se poser les bonnes questions, se trouver une bonne problématique et tâcher d'y répondre derrière. Mais c'est super intéressant.
Okay.
C'est très concret.
C'est ce que j'entends. Très, très concret. Et qu'est-ce que tu entends par démarche architecturale?
C'est-à-dire que, il n'y a pas, c'est quelque chose, c'est un terme qui veut tout et rien dire, à vrai dire, parce que chaque architecte a la sienne. C'est vraiment la façon propre de chacun d'aborder le projet. Moi, je sais que j'ai vraiment trouvé ma place dans le cabinet où je travaille parce que c'est ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que nous, notre philosophie, c'est vraiment la fonction précède la forme. C'est-à-dire que on va vraiment accompagner techniquement le projet. Le but, c'est absolument pas de dire « Ah ben moi, j'ai envie de faire un arc absolument. » Et puis si le sol le permet pas, si le site le tolère mal, si je sais pas quoi, mais il y a quand même, on voit certaines superstars de l'architecture qui forcent un peu le passage. Nous, c'est absolument pas notre philosophie. Au contraire, l'idée, c'est plutôt d'accompagner la technique, de trouver le dessin qui va sublimer la technique et de faire comprendre comment le pont fonctionne, comment les efforts travaillent,
Ok, d'accord.
Et donc, notre démarche à nous, c'est surtout ça. C'était vraiment de d'accompagner. Après, elle est propre à chacun.
Moi, je me demandais aussi, c'est quoi tes motivations pour t'être orienté là-dedans, et est-ce que c'est les mêmes aujourd'hui?
C'est une petite histoire un peu personnelle. C'est quand j'étais adolescente, je suis partie en voyage avec mes parents en Turquie. Et on avait donc visité Istanbul en long, en large et en travers. Et on s'est perdu. à force de demander notre chemin, on est tombé sur un jeune homme charmant qui parlait très bien français et qui nous a amené vers la mosquée qu'on souhaitait visiter et qui nous a proposé de nous faire toute la visite. Et après, il nous a baladé pendant plusieurs jours dans Istanbul et il s'avère que c'était un étudiant en architecture. Et ça m'a interpellée parce que j'ai toujours eu une fibre un peu créative et pour autant une nature un peu frileuse. Je me serais pas lancée dans les beaux-arts avec une carrière tout à fait incertaine derrière. J'avais besoin d'avoir quelque chose de concret entre les mains. Donc, c'est là qu'a germé l'idée de peut-être être architecte un jour, parce que ça conciliait très bien cet aspect créatif et, pour moi, une vraie formation, quelque chose qui est reconnu et qui est, voilà. Après, il s'avère que, un peu plus tard, mes parents, à nouveau, ont fait des travaux chez nous et ont fait appel à un architecte. Donc, je me suis investie à fond dans le projet parce que vraiment, ça m'a plu. Et cette personne était un monsieur très misogyne qui m'a totalement détruit ma perception de l'architecte en me disant que c'était un métier d'homme, il fallait être au contact avec les entreprises, qu'il fallait pas se laisser faire. Et moi, de ma nature un peu timide, oulala, je me suis tout d'un coup pas du tout reconnue dans ce qu'il décrivait, ce qui m'a un peu refroidie. Et donc, j'ai présenté l'INSA parce que au final, j'étais pas mauvaise en maths physique, ça me déplaisait pas et ça restait une école très généraliste qui allait me permettre de trouver forcément ma voie. Et c'est en fait une fois à l'INSA des Lieux que j'ai découvert qu'il y avait cette opportunité de faire un double cursus. Alors là, pour moi, c'était l'occasion rêvée, quoi. Vraiment, là, je me suis jetée corps et âme. J'avais fait en deuxième année, j'avais fait l'option art plastique études, qui est voilà. Et puis bah derrière, donc j'ai présenté donc le double cursus, j'ai été retenue et clairement je me suis épanouie plus dans ma formation d'architecte que dans ma formation d'ingénieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me considère vraiment comme architecte. Par contre, je regrette absolument pas d'avoir fait ce parcours-là parce que au quotidien ça me sert vraiment. Je sens que, enfin, quand un ingénieur me parlait fort tranchant et je sais pas quoi, je sais de quoi il me parle, quoi. Donc, bah, du coup, ça permet d'autant mieux d'intégrer ça à ma conception, en fait.
Ok. Et cette motivation d'aller vers quelque chose de créatif, est-ce que tu la trouves encore, enfin, dans ta vie de tous les jours, est-ce que ton esprit créatif est comblé par ce métier?
Oui, je dirais que oui, parce que on pourrait croire qu'un pont c'est un peu toujours la même chose, et en réalité, ben moi c'est ce qui me plaît, parce qu'en fait non, c'est pas du tout toujours la même chose. C'est-à-dire que chaque site, déjà chaque lieu est différent, donc va appeler un projet différent. Et puis, ben, techniquement, il y a encore des évolutions là. Bah, typiquement, tout dernièrement, là, on a répondu à un concours lancé par le Grand Paris dans le cadre des JO, etc., où on avait, où on s'est associé à une start-up qui fait de l'impression 3D. Donc voilà, pour sortir une passerelle imprimée en 3D en béton. Donc voilà, ce genre. Bon, alors, il s'avère que pour l'instant, en recherche et développement, c'était un peu juste. Donc ce projet-là ne verra hélas pas le jour. Mais c'était super intéressant. Aujourd'hui, on développe des nouveaux bétons qui sont hyper performants. Où on n'a plus comme avant un béton armé, donc avec des gros treillis métalliques dedans, ou même un béton précontraint où on fait passer des câbles en tension, mais ce qu'on appelle un béton fibré aujourd'hui. Donc on remplace toute cette armature métallique par des toutes petites aiguilles métalliques ou en plastique qui font quelques centimètres et qui vont permettre de faire des bétons ultra résistants et ultra fins. Donc là, on a fait aussi une passerelle dans le sud en béton fibré. On s'en sert pour tout ce qui est parements, écran visuel ou écran acoustique. On arrive à faire des choses qui font plusieurs mètres carrés et qui vont faire 3 ou 4 centimètres d'épaisseur. Donc c'est super intéressant. Donc il y a de l'innovation. Il y a vraiment, chaque projet est différent. On se promène dans le monde entier, enfin à minima dans la France entière et ponctuellement dans le monde entier. Donc avec des attentes culturelles différentes. Chaque client aussi est différent. Et surtout aussi, ce qui, je pense, qui est assez agréable. Moi, je vais dire que je gère 7 ou 8 projets en même temps, à différentes phases d'avancement, c'est-à-dire qu'en ce moment même, je réponds à un concours et j'ai des chantiers qui se terminent, et puis entre-temps, je suis en avant-projet ou en projet. Donc déjà, je jongle sans arrêt entre des phases différentes de projets. Et puis, un pont, ça reste un objet très technique, parce que voilà, ça franchit des grandes portées, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose d'assez simple par rapport à un bâtiment, c'est-à-dire que on va avoir soit les deux grands matériaux quand même pour faire un pont, c'est le métal, enfin l'acier ou le béton. Et ça va être en gros le plus gros. Enfin, mais il n'y a pas, on n'a pas de plomberie, on a un petit peu d'électricité pour l'éclairage, etc. Mais on va pas avoir tous ces corps de métier un peu différents. Donc c'est un objet qui est assez simple. Et ce qui fait qu'en fait, ça nous permet justement de mener beaucoup de projets de front, tu vois, et d'avoir voilà, contrairement à quelqu'un, un archi qui bosse sur un hôpital où il va être sur le même projet non-stop pendant 5 ans, quoi. Moi, j'ai pas du tout ça. Même si nous, un projet, je dirais qu'en moyenne, entre le premier coup de crayon et la réalisation, on va dire qu'il se passe entre 2 et 4 ans, le fait de gérer plusieurs projets et à des stades d'avancement différents fait qu'en fait, c'est pas du tout monotone, en fait.
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais de réseau. Toi, en tant qu'architecte, alors t'es pas trop concerné comme les ponts, c'est des objets assez simples. Mais tous les réseaux qui vont passer dans l'objet que tu dessines, tu dois y penser. Je suppose, ouais, faire des fourreaux pour l'électricité, pour différents réseaux.
Bien sûr, ouais. Bah, on fait passer, voilà, bah, souvent un minima de l'électricité. Ça nous arrivait de faire passer des gros tuyaux de gaz ou de chauffage urbain parce que bah ouais, y a une demande pour franchir une rivière ou un faisceau de voie ferrée par exemple. Donc les ponts sont sont souvent le bon endroit pour franchir facilement. Après, il y a plein de, voilà, par exemple, tout ce qui est pont en béton, souvent c'est des gros caissons qui sont totalement creux, donc voilà, on peut passer tout ce qu'on veut de façon totalement invisible. Sur les ponts métalliques, c'est un peu plus délicat, mais on a plein d'astuces. Voilà. On peut passer dans les corniches latérales, on peut passer entre les structures. Enfin voilà, on trouve pas. C'est pas un vrai problème en soi, okay. Faire passer les réseaux. C'est pas une difficulté majeure. Ouais. On en tient compte, mais.
Mais du coup, c'est quelque chose qui rentre dans le job d'un. Si on prend l'architecte au niveau plus général. Il faut penser à tout. Enfin, je pense, même si prenons un bâtiment, il faut penser aux sorties de secours, à tous les réseaux. Ça, ouais.
Ah bien sûr. Ah oui, c'est très complet. Oui, évidemment. Alors après, ça, c'est des choses qu'on retravaille. Alors en général, le programme est censé nous donner tout ça en amont, nous préciser les attentes. Alors pour les réseaux, hein. Pour les sorties de secours, ça c'est notre job justement. C'est nous les sachants qui savons que il en faut tant à tel endroit, etc. Et là, à l'inverse, c'est nous qui allons conseiller notre client s'il a oublié.
En fait, ça fait que tu as une composante légale aussi qui entre dans ton travail.
Alors, si je faisais du bâtiment, oui. Là, ce que je disais, c'est qu'a priori, nous, sur un pont, il n'y a pas de sortie de secours.
Oui, effectivement.
Réglementaire, je dirais. Plutôt que légal, je pense que nous, on a une composante réglementaire. Alors, notamment, aujourd'hui, là, depuis, par rapport à il y a 20 ans, quand j'ai commencé, vraiment depuis quelques années, une partie de notre boulot aussi, c'est les dossiers d'environnement. Parce que, ben, évidemment, on intervient dans des sites souvent, enfin, urbains ou naturels d'ailleurs. On peut donc, par exemple, être à proximité d'un monument classé, un château, n'importe quoi. Donc là, notre projet doit répondre aux exigences des architectes des bâtiments de France, donc qui sont les personnes qui vont vraiment protéger tout le patrimoine français. Donc, ben, on doit passer devant ces gens-là avec notre projet. Pour qu'ils donnent leur accord. Donc, l'idée, c'est absolument pas d'arriver avec un projet tout ficelé et puis de croiser les doigts pour que Monsieur l'architecte des bâtiments de France dise OK. C'est pas du tout notre démarche. Au contraire, nous, on les rencontre très tôt dans les premières phases d'esquisse, justement pour voir un peu leurs attentes. La plupart du temps, ils nous demandent d'être aussi discrets que possible à proximité du château ou du... mais pas toujours, des fois. Et puis, surtout, ils vont nous guider sur les choix de matériaux, etc. S'ils refusent catégoriquement qu'il y ait du métal, par exemple, ou qu'il y ait des câbles, ou je sais pas quoi, ça va aussi un petit peu orienter notre conception. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, donc, tout l'aspect plus écologique et environnemental. Où là, si on passe à proximité, déjà de zones Natura 2000 ou d'espaces protégés, des fois on a même un gros arbre hyper protégé pile sur le tracé, il faut trouver le moyen de faire autrement, soit de passer ailleurs ou de contourner. Il y a des espèces d'animaux protégées souvent, par exemple quand on franchit une rivière, c'est pas rare qu'il y ait un poisson, une grenouille, une écrevisse ou même si c'est des tout petits animaux, donc, il y a des dossiers réglementaires à monter pour prouver qu'on saura et en phase chantier et ensuite en phase d'exploitation ne pas perturber l'environnement de ces animaux-là. Donc ça se fait. C'est pas une compétence propre à l'architecte. Il y a des. On s'associe à des bureaux d'études d'écologues qui sont particulièrement pointus, mais qui vont aussi nous guider dans la conception pour savoir si. Si on fait ce qu'il faut, voilà. Récemment, par exemple, on a dessiné un petit pont. Donc, on fait pareil, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de passages grande faune. C'est-à-dire que quand une route un peu passante coupe une forêt, etc., on crée des ponts pour justement permettre aux animaux de traverser. Donc ça, on en fait de plus en plus. Et quand c'est pas toujours possible, on marie avec un pont humain, si j'ose dire, un pont routier ou un pont. On prévoit une bande pour, par exemple, récemment, pour des chauves-souris. Voilà, ça rentre vraiment, ça rentre dans la conception au même titre que la technique, quoi.
D'accord. Et tu disais tout à l'heure que tu avais des projets ou, en tout cas, ton cabinet a des projets aux quatre coins du monde. Je sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ton cabinet, de leur spécialité, de pourquoi ils travaillent à l'international.
Alors, bah, mon cabinet, donc, il a été fondé dans les années 80 par un monsieur qui s'appelle Charles Lavigne, qui, hélas, est décédé depuis. Mais moi, je l'ai connu au début de ma carrière. Et donc, qui est un des précurseurs en France. C'est-à-dire qu'il est rentré par la petite porte, mais donc, pour travailler sur les ouvrages d'art. Donc, à l'époque, je pense, quand il a commencé, en gros, il choisissait la couleur de la peinture du tablier, et puis, bref, c'était des petites choses comme ça. Mais en fait, petit à petit, c'est une pratique qui s'est généralisée, et aujourd'hui, nos clients, donc les collectivités, les régions, etc., réclament d'avoir un architecte sur un projet, ce qui était vraiment pas le cas il y a 30 ans en arrière, en fait. Les ponts étaient des objets purement techniques à cette époque-là. Donc voilà. Et puis donc, à son décès, hélas, c'est son fils qui a repris, qui travaillait déjà dans le cabinet, qui a repris l'agence avec un autre des collaborateurs. Donc c'était un monsieur Lavigne. Donc là, maintenant, le cabinet s'appelle l'agence Lavigne-Chéron. Et donc, bah, on a poursuivi dans ce domaine-là, puisque c'était vraiment la spécialité de l'agence. Donc après, ben oui, quand on travaille à l'export, souvent, c'est parce que des bureaux d'études qu'on connaît bien nous appellent. C'est-à-dire que quand on répond à un concours, on répond sous forme d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas juste nous, architectes, qui répondons. On répond toujours en équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire un cabinet d'architectes et un bureau d'études. Donc, bah, en France, il y a moins d'une dizaine de bureaux d'études qui font des ouvrages. Donc, en fait, c'est un tout petit monde, on se connaît très bien. Et c'est drôle, d'ailleurs, parce que ponctuellement, on est partenaire et ponctuellement, on est adversaire. Donc, il faut pas toujours trop discuter de projets parce que ça peut être un peu stratégique sur certains concours. Et donc, ben voilà, ces bureaux d'études, eux, sont souvent, les grands bureaux d'études français sont implantés à l'étranger. Et donc, ils font appel à nous quand ils ont un besoin spécifique. Donc, on travaille pas mal déjà dans les dom-toms, à La Réunion et puis aux Antilles surtout. Mais beaucoup à La Réunion. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle route du littoral, mais c'est un pont gigantesque construit en pleine mer à 500 mètres des côtes, justement pour remplacer une route qui était une route côtière, qui était en pied de falaise et qui régulièrement est soumise à des coulées de boue. La falaise s'écroule littéralement sur la route, donc c'est hyper dangereux. Il y a des morts tous les ans. Donc voilà, là, ils ont décidé de construire carrément une route en pleine mer. Donc ça, c'était un de nos derniers très gros projets. Et puis sinon, bah, en ce moment, à l'export, on fait aussi le TGV anglais entre Londres et Birmingham. Donc là, on fait un certain nombre d'ouvrages. Pour nous, toutes ces grandes infrastructures comme les voies ferrées et les autoroutes, c'est une mine de travail parce que chaque route coupée, chaque ruisseau traversé, chaque rivière enjambée, c'est un pont, quoi. Donc c'est en moyenne un pont par kilomètre. Alors souvent c'est des petits ouvrages, mais ponctuellement il y a un grand viaduc, il y a quelques ouvrages remarquables où là on s'amuse un peu plus évidemment que sur les petits ouvrages courants.
J'avais une question sur le monde de l'architecture et plus précisément sur le fonctionnement d'un cabinet d'architecture parce que c'est je pense pas que ce soit quelque chose qui soit évident en fait. Comment ça marche par exemple? Est-ce que tu es toute seule sur les projets? Est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, de très hiérarchique ou est-ce que c'est une profession libérale presque comme un avocat, enfin cabinet d'architecte, cabinet d'avocat. Ça me fait penser. C'est le même vocabulaire.
Ouais, bien sûr. Je vais parler pour mon cabinet parce que j'ai fait quelques stages en cabinet d'archi dans ma tendre jeunesse, mais ça commence à être un peu loin. Bon, globalement, la plupart des cabinets d'archi français, c'est des toutes petites structures, hein, de moins de 10 personnes. Donc ça fonctionne. Il y a quelques architectes tout seuls, auquel cas, oui, j'imagine que c'est vraiment la profession libérale classique, comme on peut imaginer. Nous, donc, on est 7. Donc, il y a on a deux associés, donc, qui sont les deux gérants du cabinet. Eux, leur fonction, ça va être un peu de conception, mais ça va être surtout de répondre aux appels d'offres, d'aller chercher les affaires, en fait. D'aller chercher les opérations. Et puis, une fois que ces opérations sont sont officiellement rentrés dans l'agence. Nous, les cinq autres qui sommes en dessous, on est tous donc chefs de projet et on va chacun gérer un certain nombre de projets. Donc, comme je te disais, moi, j'en ai 6 ou 7 en même temps à peu près. Et c'est à peu près le cas de tout le monde. Et puis, globalement, oui, quand je gère un projet, je le gère à peu près toute seule. Je rends compte, évidemment, à mes deux chefs de temps en temps, quoi, où eux ils peuvent intervenir, parce que des fois quand ça arrive, des situations qui sont un peu crispées ou quoi, bon, ils viennent un petit peu arrondir les angles, mais et puis par contre nous en tout cas notre culture d'agence c'est que il y a de l'entraide, c'est-à-dire que si on est un peu débordé sur un projet ou alors typiquement en phase de concours on a une date de rendu. Des fois, les échanges avec les bureaux d'études font que jusqu'à la dernière minute, le projet évolue, etc. Et nous, on doit quand même rendre à la fin un projet visuel, c'est-à-dire que il faut montrer au client à quoi ça va ressembler, faire beaucoup d'images, etc. Et donc, il arrive qu'on fait une charrette, c'est-à-dire un petit coup de bourre pendant 3-4 jours. Bah là, tout le monde pose le crayon sur ses affaires courantes et on se met tous sur le projet pour même s'il y en a un qui est un peu plus responsable du projet que les autres, en fait tout le monde vient mettre la main à la pâte pour donner un coup de main, quoi. Mais sinon sur la vie du projet, oui, globalement je suis toute seule. Moi j'ai pas un projeteur qui travaille pour moi. Quand il faut dessiner, c'est moi qui dessine. Et à l'inverse, je peux gérer un budget ou je peux, c'est moi qui dialogue avec l'entreprise, c'est moi qui dialogue avec l'ingénieur, c'est moi qui dialogue avec le client. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout, c'est un métier qui est hyper varié, quoi. J'ai pas de journée type vraiment.
Je vois, tu vois plein de gens, t'as plein d'outils différents aussi. Tu parlais de dessin, tu parlais de gestion, tu parlais de. Enfin, même, je suppose que tu fais pas mal de visio, de réunions aussi, de discussions avec les gens.
Ah bah oui, bah là c'est vrai que le Covid a. Bah, alors pour nous qui avons des projets aux quatre coins de la France, j'avoue que ça nous a beaucoup soulagé les emplois du temps, parce que c'était pas rare qu'on parte une journée entière pour faire 2 heures de réunion à Nice ou à Bordeaux. C'est vrai que c'est du temps perdu. Dans les trains et tout, on peut un peu travailler, mais enfin c'est quand même pas hyper confort, surtout pour nous, pour dessiner. On a des très grands écrans de 40 pouces. Bon, donc quand tu dois dessiner sur ton petit portable, c'est pas très confortable. Donc c'est vrai que la visio pour nous, c'est ça n'empêche pas qu'il faut un contact humain et que régulièrement on va voir nos clients et même un chantier. De toute façon, c'est quelque chose de physique. Il faut aller sur place. C'est vrai que pour toutes les phases d'études, c'est quelque chose d'ultra pratique.
Ok. Et j'ai une dernière question. Est-ce que le monde de l'architecture, c'est quelque chose d'assez ouvert? Comment dire? Est-ce que c'est de ton point de vue à toi, est-ce que c'est difficile de s'y faire une place, ou est-ce que en tant qu'ingénieur architecte, il y a beaucoup de place?
Alors, je pense que c'est un profil qui doit être ultra recherché en ce moment. C'est forcément un plus par rapport à quelqu'un qui aura juste fait des études d'architecte, je pense, parce que justement on arrive avec un bagage technique moi personnellement j'ai l'impression d'avoir retiré ça de mes études, c'est-à-dire de savoir justement marier technique et architecture, technique et esthétique, c'est-à-dire que. Parce que bon, quand on fait, alors je sais pas exactement, mais je sais qu'en études d'archi, ils ont quelques cours de structure, de résistance des matériaux, de choses comme ça. Mais bon, ça reste quand même assez succinct. Il faut quand même avoir quelques bases techniques, évidemment. J'ai vu beaucoup d'étudiants traiter un peu ça par-dessus la jambe. L'ingénieur, il saura bien faire pour que ça tienne, en gros, quoi. Et à l'inverse, des ingénieurs qui ont pas du tout de sensibilité architecturale et qui auraient une fichée l'archi avec sa finesse, son truc, là. Je sais faire que comme ça. Et donc là, je pense que aussi bien pour un ingénieur que pour un architecte, c'est forcément une ouverture. Moi, je sais que personnellement, quand on travaille avec des ingénieurs qui ont une, un minimum de sensibilité architecturale, ça se passe toujours mieux, c'est toujours plus constructif et les projets sont souvent bien mieux réussis parce que justement, ils ont ce souci-là aussi en tête et que la technique n'est pas tout. C'est-à-dire que l'architecture n'est pas tout et la technique n'est pas tout et réussir à marier ça savamment, bah, c'est vraiment le moyen d'avoir un beau projet à l'issue.
Eh ben, super. C'est très beau ce que tu dis. Eh ben oui, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la fin de cette interview ?
Bah non, enfin en tout cas, si ce n'est que j'encourage vivement les actuels élèves ingénieurs des INSA de se lancer dans cette formation que j'ai trouvée passionnante. C'est peut-être un petit peu lourd sur une ou deux années parce qu'il faut concilier les deux, mais ça permet aussi de gagner des années d'études précieuses parce que enchaîner les deux, je pense ingénieur et architecte, c'est
ouais, ouais.
C'est vraiment très long. Donc là, ça permet. Mais vraiment, je pense objectivement que c'est forcément des gens qui auront des profils recherchés. C'est vraiment un plus net. Donc, si vous avez la fibre un peu artistique, c'est aussi un moyen de se réaliser, quoi, je pense.
Super. Eh ben, Hélène, voilà. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi. Je suis ravie d'avoir partagé cette expérience.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi, Hélène, pour nous avoir partagé ton expérience. Si le monde du bâtiment et des travaux publics vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 29 avec Gilles Espic. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou INSA dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcasts, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernet-Minier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action. Et moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir.